Bonsoir. Trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. D'abord, 40e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mardi 30 juin dernier. Dans son discours à la nation, le président de la République exige aux magistrats de cesser d'abuser de leur indépendance pour martyriser le peuple et promet de mettre fin à cet état des choses. Bilan à mi-parcours des opérations de révision du fichier électoral, quelle évaluation peut-on faire près d'un mois après le lancement de ces opérations dans la ville de Kinshasa? Et enfin, dans un rapport rendu public, l'ONG Human Rights Watch parle des violations des droits de l'homme à l'est de la RDC. Cette ONG avance le chiffre de 1500 civils tués en l'espace de 6 mois. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit d'Emmanuel Moukadi, secrétaire de rédaction au magazine international Lubila, Emmanuel Paressant à Kinshasa et distribué dans beaucoup de pays du monde. Innocent Kaboukala, directeur de programme et info à Global Télévision. Et enfin, Albert Chambalé, correspondant de l'agence France Presse à Goma, au Nord-Kivu. Mais d'abord, pour voir comment les journaux quinois ont analysé les trois thèmes de ce soir, on écoute la revue de presse avec Samuel Kachaka.
Bonsoir. Le discours du chef de l'État Joseph Kabila à l'occasion de la fête de l'indépendance de la RDC figure parmi les principaux sujets qui ont fait la une des plusieurs journaux parus cette semaine à Kinshasa. Pour Uhuru, le chef de l'État a lancé un appel aux magistrats du pays en les conviant à plus de responsabilité dans leur travail. Ce confrère pense que c'est pour la énième fois que Joseph Kabila vient de faire le procès de la magistrature en dénonçant son fonctionnement qui ne cadre pas avec les aspirations du souverain. Et la tempête des tropiques prend le relais en ces termes. Pour mettre fin au mauvais procès, Joseph Kabila déclare la guerre aux magistrats véreux. En croit ce journal, le chef de l'État entend mettre en application les recommandations du dernier Conseil supérieur de la magistrature. Sur un autre registre, le confrère du journal du citoyen évoquant la révision du fichier électoral affirme que les Quinois inondent les centres d'inscription. Déjà, les principaux partis politiques tels que le PPRD, le PALU et l'UDPS poussent leurs militants à s'enrôler. Un autre sujet évoqué cette semaine, c'est la mort du sénateur Jeannot Bemba Saolona. Le quotidien L'Avenir considère qu'avec le décès de Jeannot Bemba, c'est un coup dur pour le MLC. Non seulement l'avenir de ce parti est incertain avec la détention à la haie de son président national, mais aussi vient d'être frappé par la mort d'un des siens. Pour le Phare, avec le décès de Jeannot Bemba, il s'agit d'un barba qui est tombé. Enfin, le Palmarès note qu'avec la disparition brutale de Jeannot Bemba, il y a fort à craindre que les querelles intestines au sein du MLC ne refassent surface. Ce quotidien quinois ajoute que Papa Bemba a joué un rôle de catalyseur chaque fois que des forces centrifuges ont menacé d'emporter le MLC.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire par rapport à cette revue de presse que nous venons d'écouter. Albert Kambalé, vous êtes correspondant de l'agence France Presse à Goma, Nord Kivu. Comment l'actualité a été analysée cette semaine au Nord Kivu?
Eh bien, l'actualité au Nord Kivu a été analysée. Il est bien, nous avons tout suivi du chef de l'État qui a fait son discours à la population de toute la République. Le 49e anniversaire, c'était commémoré avec faste à Goma. Et pour cela, la population a été également frappée par cette nouvelle de la mort de Jeannot Bemba.
Oui, nous allons y revenir.
Pour ce qui concerne le 49e anniversaire de l'indépendance de notre pays, ça a été commémoré avec faste. Comme je vous le disais, le chef de l'État a fait plaisir, nous pouvons dire, il a souhaité répondre à l'une des aspirations de la population du Nord Kivu, en lançant donc de l'électricité dans la ville de Goma, c'était par l'éclairage public, ce qui a été salué par toute la population.
Merci, Merci beaucoup Albert, c'est juste un petit commentaire par rapport à la revue de presse. Emmanuel Moukadi, vous êtes secrétaire de rédaction au magazine international Lubila. Ça signifie quoi d'abord Lubila?
Lubila, c'est un appel à la vigilance, un appel à l'éveil.
Un appel à l'éveil. C'est un mensuel paraissant à Kinshasa et distribué dans beaucoup de pays du monde.
Oui.
Est-ce qu'il y a une certaine objectivité dans la manière dont la presse écrite a abordé les différentes informations?
Oui, dans la mesure où la presse a fait de l'événement de l'indépendance, c'est sugar comme d'habitude. Objectivité, ça dépend. Tout journal a naturellement une coloration, mais je crois que dans l'ensemble, ça va.
Merci. Innocent Kaboukala, vous êtes directeur des programmes et infos à Global Télévision. Y a-t-il, selon vous, une information importante qui n'a pas été évoquée dans la presse de cette semaine?
Non, je pense que tout a été dit de façon globale. Mais j'aurais souhaité quand même que nos confrères reviennent aussi sur la question du sénateur Bemba. Donc les différentes correspondances qui ont été faites aux différents pays en ce qui concerne l'option qui a été levée par la CPI en ce concernant sa liberté provisoire. C'est un sujet qui aurait pu être aussi exploité.
Merci Innocent Kaboukala. Avant de passer au débat de ce soir, nous allons évoquer cette triste nouvelle. Et comme vous le savez, le sénateur Jeannot Bemba Saolona est mort depuis hier jeudi à Bruxelles d'un arrêt cardiaque. Le papa du sénateur Jean-Pierre Bemba avait 68 ans. Albert Kambalé, vous êtes à Goma. Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la mort du papa Bemba Saolona?
La mort du sénateur Bemba Saolona, c'est une nouvelle qui a choqué. C'est vraiment, comme l'a dit le confrère dans la revue de presse, un baobab qui est tombé en fait du MSC. Et surtout pour la population du Nord Kivu, Bemba Saolona était connu dans le patronat, surtout au niveau de la partie Grand Nord du Nord Kivu. C'est vraiment une nouvelle qui a choqué. C'est une disparition d'une créature humaine et la nouvelle ne fait que choquer. Ça ne peut que rendre triste toute la communauté du Nord Kivu. Mais d'abord, c'est une personne qui nous a quittés. On doit être triste pour la disparition d'un être humain.
Ok, merci beaucoup. Emmanuel Moukadi, un commentaire par rapport à la disparition de cette grande personnalité.
Oui, je veux dire d'abord que c'est une disparition tout à fait inopinée. Monsieur Jeannot Bemba était un grand monsieur. Moi, je les appelle les hommes qui ont vécu, parce que vivre, c'est avoir marqué l'histoire, parce que la mort est tout à fait inévitable. Alors, monsieur Bemba, donc, je disais, c'est un grand du Congo, père, non seulement un sénateur, mais aussi un grand industriel qui est parti pratiquement de nulle part, ce n'était pas un héritier, mais qui, de fil en aiguille, a su bâtir tout un empire industriel. Ça, c'est un aspect des choses. Un autre est que M. Bemba, il faut saluer le courage dont il a fait preuve par rapport à l'arrivée de la FDL. On se souviendra que M. Bemba
Saolona, le 17 mai 1997,
M. Bemba Saolona faisait partie pratiquement de la bourgeoisie comprador de l'establishment politique de l'époque.
Du régime du maréchal
Mobutu, avec qui il a d'ailleurs des affinités familiales. Les enfants Mobutu, les enfants Bemba s'étant mariés, M. Bemba n'avait jamais pris la poudre de scampette. Il avait su braver l'arrivée de l'AFDL. Il a eu à travailler avec Laurent Désiré Kabila. Un petit bémol, il avait été arrêté. Mais moi, je salue au fait cette bravoure-là. Il n'avait pas fui comme tous les dignitaires de l'époque. Il avait pris son courage à deux mains. Mais un autre...
Il a aussi été ministre de l'économie de Laurent Désiré Kabila.
De surcroît, voilà. Donc, pour dire que c'est un homme courageux. Mais un autre fait notable, c'est que M. Bemba Saolona, à l'époque, ministre du gouvernement Kabila, Laurent Désiré, avait publiquement appelé son fils Jean-Pierre, alors rebelle dans le nord Ubangi, de renoncer à la rébellion. C'était lors de l'émission de Madame Marie-Ange Mouchobekwa. à cœur ouvert.
Sur Antenne A.
Sur Antenne A. Et d'ailleurs, lors de la commémoration du 10e anniversaire de la dite émission à cœur ouvert, Madame Marie-Ange Mouchaloko a fait allusion à cet appel des pieds que M. Jeannot de Maréchal a son fils. Et moi, ça me fait penser à cet adage africain qui dit que un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Aujourd'hui, l'avenir donne raison à M. Jeannot de Barcelona, parce que si son fils avait renoncé jadis, il ne serait peut-être pas en prison.
Merci, Innocent Kaboukala. Et quel témoignage pouvez-vous faire de cette personnalité?
Vous l'avez dit vous-même, c'est une très grande personnalité, mais je vais rester plus dans l'aspect patronat. Vous voyez, vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs, lorsque nous posions la question à notre confrère Albert Kambélé, il vous l'a dit, dans le Grand Nord, à Goma, M. Jeannot Bemba a marqué les esprits. Et simplement parce que M. Jeannot Bemba, comme d'ailleurs dans l'ensemble du pays, avait des représentations pour ces nombreuses entreprises dont on connaît le nombre d'employés qui sont là. Alors c'est que c'est un monsieur qui ne pouvait pas n'est pas choqué quand on apprend qu'il est mort. Et donc c'est pour moi quelqu'un qui est très grand. Mon confrère l'a dit tout à l'heure. Les hommes qui ont vécu, ce sont des gens qui ont pu marquer les esprits, et cet esprit, il l'a fait, il a réussi, et on apprend des lui d'ailleurs que c'était un homme qui n'a presque pas eu de conflit avec des gens, et ce qui est rare. C'est qui est rare, et si tout le monde doit témoigner dans ce sens-là, je pense que ça ne peut que choquer, mais on regrette le fait qu'il soit parti beaucoup plus tôt, et peut-être aussi tout ce qu'il a réussi hein, comme entreprise. Est-ce qu'on saura gérer tous ces personnels, tous ces gens, et qui parce que rien que pour la province de l'Équateur, on parle pas moins de 10 000 personnes qui sont employées.
Merci, nous passons à notre premier thème de la tribune de ce soir. 49e anniversaire de l'indépendance de la RDC, mardi 30 juin dernier. Dans son discours à la Nation, le président de la République exige aux magistrats de cesser d'abuser de leur indépendance pour martyriser le peuple et promet de mettre fin à cet état des choses. Les magistrats doivent cesser d'abuser de leur indépendance pour martyriser le peuple, déjà meurtri et éprouvé par une crise multiforme. Déclaration du président de la République à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Joseph Kabila a réaffirmé sa détermination à mettre un terme à cet état des choses dans un bref délai avec le concours des instances attitrées. On écoute le chef de l'État, Joseph Kabila.
Aujourd'hui, la justice est elle-même au bain des abus. Abusant de l'indépendance liée pourtant à la délicatesse et à la noblesse de sa charge, le magistrat se rend lui aussi coupable de dol, de concussion, de corruption et voire même des infractions de droit commun avec une facilité déconcertante. Quant à moi, garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions, je suis déterminé à mettre fin à cet état de choses avec le concours des institutions. Dans cette perspective, j'entends tirer incessamment toutes les conséquences de conclusion des travaux de la deuxième session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature tenue à Kinshasa du 13 au 23 juin courant. Il est temps que les opérateurs judiciaires choisissent leur camp, celui de servir ou de martyriser davantage un peuple déjà meurtri et éprouvé par plusieurs années de conflits et de violences. Je ne doute pas du reste de tout le soutien que la population tout entière apportera à ces mesures qui, dans les plus brefs délais, contribueront à coup sûr à garantir la justice et la sécurité judiciaire pour tous.
Réagissant au discours du chef de l'État, fustigeant le comportement de certains magistrats qui se rendent coupables de la corruption, le syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC en sigle, s'est dit être d'accord avec Joseph Kabila. Mais au-delà de la sanction à l'encontre des magistrats, le SINAMAC estime qu'il faut d'abord repenser profondément les véritables problèmes d'ordre social et y remédier. Le syndicat déclare, je cite, « Le chef de l'État doit aussi étendre la justice aux ministres et aux députés au lieu de se limiter aux seuls magistrats ». Fin de citation. Albert Kambalé, comment analysez-vous ce discours du chef de l'État?
Bien, merci. Le discours du chef de l'État est bon. Ça veut dire ici, dire une chose, c'est bien, mais la mettre aussi en pratique en est une autre. Le chef de l'État a bien parlé et nous attendons de lui les actions concrètes. Et d'abord, pour la population du Nord Kivu, si réellement c'est que les chefs de l'État disent, c'est ça vraiment, ils sont chevaux des batailles, la population du Nord Kivu va se vite se réjouir. Il y a combien d'efforts pour dire que les magistrats ont abusé de leur indépendance au Nord Kivu, peut-être dans des dossiers, des conflits conflits, peut-être, il y a des conflits, il y a des assassinats, il y a beaucoup de procès qui sont restés longtemps pendant. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun résultat, il n'y a aucun arrêt, il n'y a aucune sanction qui a été donnée. Nous réjouissons de cette déclaration du chef de l'État. Et nous disons donc que, comme il l'a dit, DJ honore toujours, tout le procès, on aura donc des résultats ou on aura des sanctions pour chaque résultat. Mais pourquoi les gens ne sont pas sanctionnés? Il y a même des procès qui ont commencé, des assassinats. Les grands hommes à Goma, à Boutembo et à Beni, les procès ont commencé, mais jusqu'à présent, sans suite. On a même des gens qui ont été pointés du doigt, il y a même des gens, des suspects, des présumés qui ont été arrêtés, et aussitôt, deux, trois mois, les hommes, les présumés sont libérés, et si c'est le massif, c'est le chef de l'État qui est réellement le magistrat suprême, donc, comme l'a dit même le syndicat des magistrats, mais devrait commencer par les sociales des magistrats, et là, les magistrats vont nous rendre une justice équitable, et nous serons tous contents de ce travail des magistrats. Mais bien que le chef de l'État n'a rien fait pour les magistrats, moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y aura quelque chose.
Le syndicat, il n'a rien fait pour les magistrats. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Donc, ce que je veux dire par ici, c'est que je vois des magistrats à Goma qui sont sur des motos, qui sont en pied, des magistrats impayés. Mais comment voulez-vous qu'un magistrat impayé puisse trancher une affaire qui coûte des millions et des milliers de dollars ou des millions et des milliers d'âmes perdues et que quelqu'un qui n'a rien? Donc, pour moi, je trouve que les magistrats n'ont rien. Et bien qu'ils n'ont rien, mais ils s'efforcent quand même de faire quelque chose. Et comme le chef de l'État, c'est le magistrat suprême, il serait mieux qu'il commence à revoir la situation sociale des magistrats, leur donner tout ce qu'il faut selon la déontologie des magistrats, et leur sanctionner. Là, ça serait tout à fait normal et c'est tout à fait correct. C'est ce que nous attendons.
Merci, Emmanuel Moukadi. Le chef de l'État est quand même le garant de la nation, de la Constitution.
Tout à fait.
N'a-t-il pas raison de dénoncer certaines choses?
Tout à fait, oui. Le chef de l'État étant le magistrat suprême, je vais abonder dans le même sens que notre confrère Albert Kambalé. Le chef de l'État a raison de dénoncer lors du 40e anniversaire de notre pays à la question de l'indépendance, ces méconduites, hein, assez décriées de nos magistrats. Je disais tout à l'heure que je vais abonder dans le même sens que Albert Kambalé. Je crois que, concomitamment, un effort doit être fait pour mettre les magistrats dans des conditions optimales de travail, c'est-à-dire un salaire décent. Hein, en ce moment-là, on leur priverait de tout prétexte pour être corrompus. On les mettrait à l'abri de la corruption. Donc, à mon humble avis, je crois que le chef d'État a raison. Souvenez-vous de sa célébrissime phrase lors de sa prestation de serment, les portes des prisons sont grandement ouvertes. Je crois que ça entre simplement dans la droite ligne de cette philosophie-là, parce que une nation qui aspire au développement doit avoir la justice comme priorité. Sans justice, il n'y a pas un développement quelconque. Et les opérateurs judiciaires doivent être plus que jamais conscients du rôle qui leur incombe afin de rendre la justice et rien que la justice.
Et Innocent Kaboukala, pensez-vous que les conditions sociales des magistrats peuvent justifier le comportement que le chef de l'État a fait dénoncer aujourd'hui?
Je pense que à leur place, je dirais non d'emblée. Mais il faut dire que ce sont des êtres humains. Ils vivent dans des familles. Et puisqu'on vit dans une famille, on a des obligations en tant que tel. Cela signifie par exemple, si pour le magistrat, le travail de dire le droit, c'est ça son travail. Et cela signifie que c'est là qu'il doit gagner son pain. Mais au retour de son travail, son fils qui lui demande un pain, et lui n'a pas de réponse. Vous les mettez dans quelles conditions? Donc c'est difficile. Alors, cela peut justifier dans une certaine mesure. Mais je ne dis pas que je ne leur donne pas raison d'emblée. Mais je dis que ce sont des conditions dans lesquelles ils sont en train de vivre qui peuvent parfois commander leur comportement. Et donc, les condamner d'emblée, c'est quand même assez difficile. Je pense qu'il est, il serait peut-être beaucoup mieux de plutôt aller par les actes, les actions qu'il faudrait, au lieu peut-être de prendre ce discours. Je sais que je respecte beaucoup le chef de l'État, c'est vrai, lorsqu'il le dit, il était de le faire en tant que garant de la nation, mais je ne pense pas que ce soit vraiment très indiqué de le faire de cette manière-là. Et pour autant que vous allez peut-être pas me contredire, lorsqu'il le dit, il y a des gens qui ont entendu. Je vois ici, par exemple, le monde extérieur. Et ceux-là même qui voudraient peut-être nous soutenir dans juste cette mesure, par exemple, en investissant, mais chez nous. Mais lorsqu'ils apprennent que lui-même, le chef de l'État, n'est pas d'accord avec sa propre justice, ben ils se disent, mais tiens, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là? Ils mettent un peu un frein. Donc, il y avait plutôt lieu de faire autre chose, parce qu'il a vu ça, il a pensé, mais pourquoi ne pas agir directement que passer par une dénonciation? Moi, je crois que ça aurait été beaucoup plus intéressant de le faire de cette manière-là, parce que, quoi qu'il arrive, les conditions de vie de chacun, lorsque elles ne sont pas bonnes, il est difficile. Il est difficile de tenir. Parfois, on peut être commandé par cela. Et le ventre peut commander les gens. Alors, nous déplorons ce fait, mais bon, regardons les choses en face.
Oui, il aurait agi comment parce que, en fait, Emmanuel Moukadi, la Constitution ne lui donne pas le pouvoir d'agir directement à l'endroit des magistrats. À votre avis, parce qu'en fait, dans ses discours, il promet de mettre fin à cet état des choses dans un bref délai. À votre avis, comment il va procéder?
Comment il peut procéder? Mais les magistrats constituent un corps. Et ces corps-là sont dirigés par des personnes, on les appelle des procureurs, et il va procéder de manière la plus formelle qui existe pour sévir. J'aimerais plutôt rebondir sur ce que le confrère Innocent a fini tout à l'heure. Je crois que le discours du chef de l'État doit plutôt être un discours rassurant à l'endroit des investisseurs qui peuvent se rendre compte effectivement qu'il y a ces soucis-là d'assainir l'espace judiciaire congolais. Parce que Innocent a semblé affirmer que c'est un discours qui pourrait dissuader les investisseurs. Moi, je m'inscris en faux. Moi, je crois plutôt que c'est un discours rassurant qui prouve que le chef de l'État tient au bon fonctionnement des institutions judiciaires et que ces investisseurs-là peuvent être assurés d'investir dans notre pays et qu'en cas de contentieux, ils savent que la justice dira effectivement le droit.
Oui, Albert Kambalé, Emmanuel Moukadi pense que le discours du chef de l'État est susceptible de persuader les opérateurs économiques. Est-ce que vous êtes de ce point de vue-là?
Persuader les opérateurs économiques, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que le chef de l'État promet une justice qu'il faut mettre fin à l'état des choses des magistrats? Personnellement, c'est pas les opérateurs économiques ne doivent qu'attendre voir les actions menées sur terrain. Donc on attend, et moi je pense que les opérateurs économiques, je ne vais pas parler à leur place, les opérateurs économiques doivent d'abord voir ce que le chef de l'État a dit, si c'est réalisé, parce que je dis dire quelque chose, c'est bien, mais la mettre en pratique en est une autre.
Et Albert Kambalé, vous semblez être pessimiste quant à la mise en pratique de tout ce que le chef de l'État a promis dans son discours.
Non, je ne suis pas du tout pessimiste, mais ce ne sont que mes analyses que je suis en train de voir, parce que moi je vis au Nord Kivu. Et si je peux analyser les discours du chef de l'État à partir de tous les événements que nous vivons au Nord Kivu, eh bien je dirais, pour ne pas être pessimiste, je dirais, attendons voir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par le chef de l'État, et que nous avions vu ceci, et cela nous n'avons pas vu, Et je dirais, si je peux confronter ou je peux marier les discours du chef de l'État à la réalité du terrain, surtout au Nord Kivu, je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Je ne suis pas ni optimiste ni pessimiste, mais je me dis, attendons voir.
Attendons voir, donc, c'est avec vous que nous passons à notre deuxième thème. Bilan à mi-parcours des opérations des révisions du fichier électoral. Quelle évaluation peut-on faire près d'un mois après le lancement de ces opérations dans la ville de Kinshasa? Jusque le week-end dernier, selon la FEI, 196 000 cartes d'électeurs ont été délivrées. Cependant, la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, déplore certaines failles dans le déroulement de ces opérations, notamment la lenteur des machines et les manques de rapidité de la part des opérateurs des saisies. Conséquence, environ 10 personnes seulement étaient enregistrées dans chaque centre par jour. Il n'y avait pas non plus d'engouement de la part de la population. Cela s'expliquerait, selon la l'INELIT, par les comportements des partis politiques. Ces derniers n'ont toujours pas commencé la sensibilisation des électeurs. Quels sont les défis à relever pour le succès de ces opérations? Le président de la Ligue nationale pour les élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle, pense que pour la réussite de ces opérations, la CI doit veiller au respect des instructions données aux agents électoraux. Et Jérôme Bonceau pense aussi que la sensibilisation doit être renforcée, mais aussi augmenter le nombre des bureaux pour ces opérations. On écoute Jérôme Bonceau, président de la l'INELIT, au téléphone de Kéline Couté.
Nous avons demandé à ce que la commission électorale indépendante puisse mettre l'accent sur ces agents, les gens qui sont dans les centres d'inscription, qui puissent bien respecter les instructions que la CIA a données et que ces gens-là puissent avoir la maîtrise et des instructions et des machines et la gestion aussi des enrôleurs qui viennent dans leur bureau. Parce que nous avons vu que selon la procédure de la CIA, que les centres d'inscription devaient ouvrir entre 7h30 et 17h. Mais curieusement, dans certains centres, les rapports qui sont à notre procédure, certains agents débarquent dans le centre vers 10h. C'est le début de sensibilisation. Nous pensons qu'il y a une petite lenteur. L'autre difficulté, ce sont les formes de marché. Ils sont difficiles à quitter leur marché pour aller se faire enrôler. Ce que nous demandons aussi à la CI, s'ils peuvent voir à la hausse le nombre de centres d'inscription en mettant certains bureaux dans le marché pour permettre à ces moments-là de se faire enrôler dans le marché avant la date limite du mois d'août.
Inoussa Kaboukala, près d'un mois après le début de ces opérations, la CI avance un chiffre de 196 000 cartes déjà délivrées. Et ce sont les statistiques du week-end dernier. Et à cet allure, le chiffre de 2 millions prévu par la CI pourrait-il être atteint à votre avis?
Je pense que ce sera difficile, simplement parce que d'après ce que nous venons de suivre tout à l'heure avec le président de la INELIT, la manière dont sont en train d'être menées ces opérations ne permet pas. Parce que le premier point, c'est d'abord le fait que la CEI n'a pas autant de moyens que, par exemple, il y a 3 ans. Et c'est ce qui explique aussi que lorsqu'on demande qu'il y ait des centres, par exemple, dans différents marchés, mais on ne sait pas aller les installer quand on n'a pas les moyens, parce qu'il faudrait compter avec le personnel qu'il faudra affecter dans ces centres-là. Alors, ça sera difficile pour que ces chiffres-là soient atteints. Bon, de l'autre côté, lorsqu'on dit que les partis politiques ne s'adonnent pas à une sensibilisation, mais là aussi, il y a un véritable problème. Les mêmes partis politiques, vous vous souvenez, il y a 3 ans, les partis politiques étaient chaque fois en réunion avec, par exemple, le NDA pour des séminaires, des choses sur la sensibilisation, ainsi de suite. Mais maintenant, ce genre de travaux, ce genre d'initiatives ne se font pas. Les partis politiques sont en train de fonctionner presque au ralenti.
Ça peut être dit à quoi?
Mais justement, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de moyens au sein des partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques ne sont pas soutenus. Et donc, ils doivent utiliser l'argent de cotisations mensuelles de leurs membres pour arriver à faire ce grand travail-là. Mais c'est, voyez-vous, notre pays, c'est un sous-continent. On a cessé de le dire. C'est difficile d'arriver à faire parvenir ce message-là. Rien que le volet communicationnel, c'est très compliqué. Qu'est-ce que, par exemple, le président provincial d'un parti qui est implanté à Kinshasa et que lui-même est au Nord Kivu ou, je ne sais pas moi, à Dungu là-bas, est-ce que comment peut-il être en possession par exemple, de la consigne, des éléments, de la manière dont des ordres qui sont donnés par sa hiérarchie à partir de Kinshasa, pour arriver, par exemple, à sensibiliser la population qui est sous sa juridiction. c'est difficile. Et donc, ça devient finalement un travail pour la seule CEI. Mais laquelle CEI, j'ai dit tout à l'heure, n'a pas assez de moyens. Alors, c'est difficile pour le deux moins parti. Mais pourtant, nous avons salué cette initiative-là pour donner finalement la chance à tout le monde, notamment lorsqu'on parle du retour de l'UDPS et qui est ces partis qui n'avaient pas amené ses membres pour l'enrôlement. Donc, c'est déjà une bonne chose en termes d'intention. Mais j'ai comme l'impression qu'à la ligne au fond des choses, c'est ça un peu difficile d'atteindre ces chiffres avancés.
Emmanuel Moukadi, vous pensez que les partenaires électoraux, notamment les partis politiques, les confessions religieuses, les ONG, doivent bénéficier d'un budget pour leur permettre de faire convenablement les travaux de sensibilisation?
Pas du tout. J'ai relevé un certain nombre de que moi j'appelle des contre-vérités de la part de mon confrère innocent qui cherche à nous faire croire que pour sensibiliser la population à venir s'enrôler, il faut un budget quelconque. Je ne suis pas de cet avis-là du tout, parce que un parti politique a essentiellement deux missions. Il y a d'une part la conquête du pouvoir, mais aussi l'éducation à la citoyenneté. Et pour sensibiliser la population à venir s'enrôler, c'est un rôle majeur du parti politique. Et quand notre conseil innocent affirme que se demande comment un président provincial d'un parti peut recevoir des ordres du secrétaire général du parti qui est basé à Kinshasa. Mais il y a l'Internet, chers confrères. Aujourd'hui, l'Internet, il y a même des méthodes.
Emmanuel Moukadi, vous connaissez la réalité de ces pays, la RDC, c'est pas tout le monde qui est connecté honnête. Et vous connaissez même la situation de nos partis politiques. Et vous pensez que c'est tous les partis politiques qui sont en mesure de se connecter à l'Internet?
Des partis sérieux, oui. Particulièrement pour les partis qui sont plus ou moins au pouvoir, et même dans ceux qui sont dans l'opposition. Tous les membres des partis politiques, ayant des députés et un des ministres, il y a des cotisations annuelles qui peuvent permettre, à mon humble avis, d'étoffer le budget communication pour un parti politique. Parce que, in fine, c'est le parti, en mobilisant la population, mais on mobilise par le même coup l'électorat. Et la crédibilité d'un parti politique au pouvoir, c'est aussi, vous savez, en Europe, on compte beaucoup sur ça, le taux de participation. Donc, le parti politique doit se dire que c'est impérieux pour lui, ce parti, de mobiliser les gens à venir s'enrôler massivement, parce que cela va de sa crédibilité lors de son accession au pouvoir. Donc, c'est un fort fuyant que de dire, que d'avancer comme prétexte ou alibi, l'argent. Non, l'argent, on en trouve, et particulièrement pour les partis qui sont au pouvoir, et même si c'est dans l'opposition, ils ont des députés aux assemblées provinciales, voulais-je dire, au niveau de l'Assemblée nationale, et même certains au niveau de gouvernorat.
Bon, c'est pas tous les partis qui ont des députés dans les différentes assemblées provinciales, même à l'Assemblée nationale.
Et ce n'est pas tous les partis, mais un parti ne vit pas seulement de ses députés ou de ses ministres, mais un parti peut vivre aussi des dons de legs. Il faut ce qu'on appelle le fundraising. On peut mobiliser des fonds.
C'est-à-dire
la mobilisation des fonds auprès des sympathisants, des donateurs, et j'en passe des meilleurs. Donc, il faut mettre en branle toutes les stratégies susceptibles de mobiliser de l'argent. Mais moi, je ne pense pas, cher Guy Maté, que l'argent peut constituer une entrave à la mobilisation des électeurs. Ça ne demande pas un budget conséquent. Je ne suis pas de cet avis-là. Je ne pousse pas cet avis-là.
Innocent, avocat, la femme n'est pas être d'accord avec vous.
Je ne suis pas d'accord, parce que vous sentez vous-même que mon confrère se contredit. Lorsque, quand il parle du budget, le budget signifie quoi? Dans le budget, qu'est-ce qu'il y a? Entre autres, il y a l'argent. Donc, il est d'accord avec moi. Je crois qu'il arrive à un niveau donné. on a besoin de l'argent pour pouvoir faire un travail de sensibilisation. Lorsque vous parlez de l'éducation à la citoyenneté, justement, lorsque nous poussons, lorsque nous, en tant que médias par exemple, nous demandons aux gens d'aller se faire enrôler, et que le même acte est posé par les partis politiques, cela signifie que ces partis politiques prennent en charge leurs membres. Je ne dis pas qu'on leur donne de l'argent pour pouvoir faire cela, mais je dis ils le prennent en charge pour les éduquer à la citoyenneté. L'acte d'aller se faire enrôler, c'est un acte citoyen, c'est un acte civil. Et donc, il faut de l'argent pour, par exemple, si vous prenez rien que la ville province de Kinshasa, le siège se trouve, par exemple, ici à la Gombe, et vous dites qu'il faudra sensibiliser notre base de Maluku ou de Kinkole. Mais il faut mettre des moyens pour que ces agents sensibilisateurs qui viendraient de votre parti pour prendre des stratégies, par exemple, pourquoi est-ce que nous devons nous faire enrôler, pourquoi tout ça, toutes ces questions qu'on doit poser. Mais il faut qu'il y ait un minimum de moyens pour que ces gens atteignent ce coin de la capitale. Si déjà à Kinshasa, compte tenu de la grandeur de la ville, c'est difficile d'atteindre tous les coins et les recoins. Mais comment ça va être possible pour l'ensemble du pays?
Donc, mais
vous me rejoignez parce que vous parlez du budget. Et donc, j'ai raison lorsque je parle du budget. Et donc, s'il n'y a pas de budget, nécessairement, on peut constater cette lenteur. Le problème, c'est que nous disons, il nous faut aller vite parce qu'il y a un temps imparti. On a parlé de 2 mois. Mais il y a seulement 196 000 personnes qui sont enregistrées depuis le début de ces opérations et bientôt 1 mois, si pas déjà 1 mois. Et il ne reste plus qu'un seul mois. Et vous pensez que dans 1 mois, on peut faire, si nous faisons des calculs, on peut déjà atteindre, ce n'est même pas 1 million, on peut atteindre 1 million.
C'est pas facile. Albert Kambale, en fait, des opérations de sensibilisation, c'est des opérations d'exacte envergure. Et pensez-vous que les partis politiques peuvent se permettre de faire de la sensibilisation à l'endroit de leurs électeurs sans un appui financier de la part de l'État congolais?
Je vais d'abord rejoindre l'idée de mon confrère qui parlait de budget. C'est tout à fait normal qu'il y ait budget qui parle de sensibilisation, il parle également de moyens, et précisément moyens financiers, parce que les sensibilisateurs vont se déplacer, il faut qu'il y ait un mégaphone, il faut qu'il y ait des piles dans ces mégaphones, il faut qu'il y ait ceci et cela, et bien sûr, il faut qu'il y ait des moyens. Et même, pas il faut que le gouvernement, c'est bien stipulé dans notre constitution, l'État doit subventionner ou doit donner quelque chose aux partis politiques pour qu'ils procèdent également à l'éducation, à la citoyenneté, à la sensibilisation électorale et j'en passe. Et donc, pour dire que je veux que la sensibilisation est passée entre les membres de la des membres des partis politiques, parce qu'ils sont à la conquête du pouvoir, parce que c'est ça leur rôle, il faut qu'ils sensibilisent,
il faut qu'ils
mais il faut qu'il y ait des moyens à donner aux partis politiques pour que cela se passe bien et qu'il y ait vraiment un taux de participation élevé aux élections, que tout le monde y participe, et du coup qu'on voit quel parti a gagné parce que le parti a bien sensibilisé.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. Dans un rapport rendu public, l'ONG Human Rights Watch parle des violations des droits de l'homme à l'est de la RDC. Cette ONG avance les chiffres des 1500 civils tués en l'espace de 6 mois. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé ce jeudi une augmentation spectaculaire depuis janvier dernier d'attaques rebelles contre les civils dans l'est et le nord-est de la RDC. Dans un rapport rendu public, Human Rights Watch indique qu'au moins 1500 civils ont été tués et des milliers de femmes et de jeunes filles violées par ces rebelles FDLR et ceux de l'armée de résistance du Seigneur LRA en sigle. L'ONG ajoute que des soldats FRDC se sont également rendus coupables de ces violations. Human Rights Watch indique avoir fait part de ses inquiétudes des droits de l'homme au chef de l'État Joseph Kabila en séjour à Goma. Annick Van Wundeberg, chercheuse à Human Rights Watch, au téléphone de Junior Kamunga.
ce matin, Human Rights Watch avait parlé avec le chef de l'État par rapport à tout nos inquiétudes de questions des droits humains. C'était une réunion assez encourageante. Le chef de l'État, selon nous, était quand même sérieux pour mettre fin à ces violations des droits de l'homme. Et nous avons encouragé le chef de l'État encore de prendre des étapes urgentes pour arrêter le général Bosco Ntaganda.
Et à ce propos, est-ce que le chef de l'État vous a donné une réponse concrète sur l'arrestation de Bosco Ntaganda?
Bon, une chose certainement que nous avons discuté, c'est toujours cette question difficile entre la paix et la justice. Et nous avons expliqué au chef de l'État, pour nous, la paix et la justice viendra ensemble. Et certainement, le chef de l'État a dit clairement que qu'il a un engagement personnel à mettre fin à la culture d'impunité.
Réagissant à ces rapports, le porte-parole des FRDC affirme que le chef de l'État, en tant que commandant suprême, a décrété la tolérance zéro au sein des forces armées. Cela veut dire que désormais, tout militaire coupable d'actes répréhensibles, quel que soit son rang, devra être non seulement arrêté, mais interpellé et jugé par la justice militaire. Albert Kambalé, correspondant de l'agence France Presse à Goma, au Nord Kivu, avec cette réaction du porte-parole des FRDC, pouvons-nous espérer que les choses vont cette fois-ci changer? Allô, Albert Kambalé? Apparemment, nous avons perdu Albert Kambalé. Je repose la même question à Emmanuel Moukadi, qui est secrétaire de rédaction au magazine international Lubila, qui signifie appel à l'éveil, voilà. C'est un mensuel paraissant à Kinshasa et distribué dans beaucoup de pays du monde. Et Emmanuel, vous pensez que avec cette réaction du porte-parole des FRDC, les choses vont cette fois-ci changer?
Je l'espère, parce que le reproche fondamental qu'on a toujours formulé à notre pays, c'est l'impunité. Et l'impunité qui est au fait corrélative à la justice doit avoir droit de cité. C'est le rapport de Human Rights Watch, je crois que c'est le énième rapport qui met en évidence ce genre de barbarie de cette soldatesque FDLR qui continue toujours à faire des ravages. Mais les FARDC sont aussi indexés, cette fois-ci, dans leur comportement répréhensible. Je crois qu'il est aussi impérieux, donc je saute à pieds joints à l'idée du chef de l'État de sévir face à ces comportements qui sont totalement inacceptables. Le Congo a perdu beaucoup de ses citoyens, c'est totalement inacceptable. Nous disons basta à ces tueries, trop c'est trop. Le Congo a besoin de tous ses citoyens.
Nous posons la question à notre confrère Inosa Kabukala, qui est directeur de programme Info à la télévision globale. Inosa, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour réduire sensiblement les cas des violations des droits humains dans notre pays?
Très bien, ça c'est vraiment une très bonne question. Déjà, ici tout à l'heure, on a dit que une délégation de cette ONG des droits de l'homme a été rendre visite au chef de l'État justement pour échanger avec lui sur la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Je crois que ce sont là les démarches qu'il faut saluer. Mais ces démarches-là devraient, à mon avis, aboutir à une chose, c'est que on ne peut pas parler de la paix dans cette partie si les vrais problèmes ne sont pas posés. Les vrais problèmes qui sont posés, vous avez suivi vous-même un de nos confrères, je crois, qui a posé la question à la représentante. Est-ce qu'y a-t-il eu question au cours de l'échange avec le chef de l'État de la question sur Bosco Ntaganda? Je crois que c'est ça le véritable problème aussi dans cette partie. Et la question de la CPI a été claire. Et je pense que si notre pays, nous sommes signataires du statut de Rome, et si notre pays accepte de coopérer avec la CPI en ce qui concerne le mandat qui pèse sur Bosco Ntaganda, ce serait un pas des géants dans la recherche de la paix dans cette partie de l'Est du pays.
Merci, c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Willem Lungamba qui était à la technique et Kéline Couté qui a réalisé pour vous cette émission, assisté des Alain Irung et Samuel Kachak, sous la supervision des Martin Seboujangwe. En leur nom, Guy Maté vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Capi. Thank you.